L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après avoir parcouru les pays baltes et analysé les enjeux de ce nouveau limès entre l'Union européenne et la Russie, je vous accompagne aujourd'hui dans votre intarissable soif de connaissances. Nous allons parler d'une boisson élaborée à partir de céréales, d'eau et de levure dans une distillerie. Synonyme de raffinement et d'art de vivre, il peut se consommer installé confortablement dans un fauteuil en cuir couleur Havane en écoutant du Duke Ellington. Souvent associé aux Landes écossaises, il est désormais produit aux quatre coins du monde, jusqu'au Japon et à Taïwan. Vous l'aurez certainement deviné, nous allons aujourd'hui partir à la découverte du whisky et de ses différentes régions de production. Les confidences d'un whisky trotteur, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, quelques éléments d'histoire. La première trace de whisky en Écosse remonterait à 1494. Les premiers distillateurs seraient les moines de Dalriada, qui diffusèrent les techniques de distillation lors de leur évangélisation des Pictes de Calédonie. La Calédonie étant l'ancien nom de l'Écosse, partie de l'île de Bretagne au nord du mur d'Adrien. Dans les années 1500, la revente d'eau de vie n'est autorisée que pour les barbiers et les chirurgiens. L'Excise Act de 1823 rend la distillation légale en Écosse. En 1802, Jefferson, aux États-Unis, abolit les taxes sur le whisky. En 1890, on dénombre plus de 160 distilleries en Écosse, ce qui correspond à l'âge d'or du whisky écossais. Par la suite, la surproduction de whisky, associée à une période de récession économique, entraîne la fermeture de nombreuses distilleries. Au début du XXe siècle, le whisky se trouve au cœur de la prohibition aux États-Unis. Entre 1919 et 1933, il est interdit de fabriquer, de vendre et d'acheter sur l'ensemble du territoire américain toute boisson dépassant 0,5% d'alcool. L'interdiction de la consommation d'alcool a entraîné la mise en place d'un trafic parallèle sur lequel la mafia a très tôt mis la main. Les speakeasy ont fleuri à travers de nombreuses villes américaines. Il s'agissait de bars clandestins où les patrons demandaient à leurs clients de parler doucement, d'où le nom speakeasy, pour demander une boisson alcoolisée. L'un des noms célèbres associés à cette période est Elliot Ness, agent du département du Trésor américain, qui lutta contre les trafiquants d'alcool et contre Al Capone. À quoi ressemble donc la géographie du whisky? Son aire historique de production est le Royaume-Uni, l'Écosse et l'Irlande. Si l'on prend une carte de l'Écosse, nous partons de la région des Lowlands, au sud d'Édimbourg, où les distilleries sont plutôt éparses. Ensuite, nous remontons vers les célèbres Highlands, qui s'étendent du Loch Lomond jusqu'à la côte nord de l'Écosse. Quelques noms célèbres de distilleries, Glenturret, Tullibardine ou Ben Nevis. Au nord-est, se situe la région du Speyside, où l'on compte une cinquantaine de distilleries. La région du Speyside doit son nom à la rivière Spey. Pour la petite anecdote, c'est dans le Speyside qu'a été inventé le concept de la route touristique du whisky, lorsque la distillerie Glenfiddich a ouvert ses portes au public en 1969. Le Speyside est considéré comme le triangle d'or de whisky. Cette région concentre le plus grand nombre de distilleries écossaises. La présence de nombreux cours d'eau et le climat tempéré en font une région naturellement fertile, idéale pour la culture de l'orge. Les whiskies du Speyside se distinguent par leurs notes fruitées et leur caractère rond et doux. Plus au nord, vous trouvez encore quelques distilleries telles que Old Putney. Au niveau des îles Orcades, on trouve les distilleries les plus septentrionales d'Écosse, Highland Park et Scapa. Pour terminer ce tour d'horizon des whiskies écossais, Arrêtons-nous sur l'île d'Ailey. Située sur la côte sud-ouest de l'Écosse, le territoire d'Ailey est le paradis des amateurs de whisky tourbé. Cette île est balayée par le vent et les tempêtes. Un quart de l'île est recouvert de tourbières qui se révèlent propices à la culture de l'orge. La tourbe sèche le malt, donnant ainsi des whiskies fumés et iodés. Ce type de whisky, très marqué en goût, ne plaît pas à tous les palais. À titre personnel, ce sont mes whiskies préférés, en raison justement de leur goût terreux et fumé. Je garde un souvenir ému d'une dégustation de Kaolila, il y a quelques années de cela, dans un ancien speakeasy de New York, à deux pas de Central Park. L'Irlande, une autre grande terre de production de whisky. On dénombre 7 distilleries en Irlande. Les plus célèbres d'entre elles sont Bushmill et Middleton. L'une des caractéristiques des whiskies irlandais est la triple distillation. En Irlande, la tourbe est rarement utilisée pour le séchage de l'orge. Traversons maintenant l'Atlantique et prenons la direction du pays de l'oncle Sam. Les États-Unis sont le pays du Bourbon. Aux États-Unis, la terre d'élection favorite du whisky est le Kentucky. Les plus grandes distilleries du pays y sont représentées, Jim Beam et Buffalo Trace. Le whisky est également produit dans le Tennessee, lieu de production du Jack Daniels. Ces dernières années, les micro-distilleries se multiplient aux quatre coins du territoire. Les whiskies américains, ou plutôt les whiskies américains, sont élaborés à partir d'un mélange de trois céréales, maïs, seigle et orge maltée. Ils présentent un caractère doux et moelleux. Parlons maintenant d'un producteur historique qui est revenu à la mode très récemment, le Japon. L'industrie du whisky japonais a été créée dans les années 20 par un partenariat entre le propriétaire d'une société importatrice de scotch et un distillateur ayant appris la fabrication du whisky en Écosse. Cette première distillerie deviendra par la suite Suntory, le géant japonais des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Dans les années 1980, Suntory Royal était la marque de whisky la plus vendue au monde. Le groupe concurrent de Suntory est Nika. Si vous êtes amateur de whisky, vous avez certainement entendu parler ou même dégusté un Nika. Un certain nombre de blends japonais s'inspirent du modèle écossais. Aujourd'hui, les single malt japonais les plus réputés rivalisent, voire dépassent les whiskies écossais. Le climat tempéré, la pureté de l'eau, la présence de tourbières et la grande technicité des distillateurs japonais permettent d'expliquer la grande qualité de ces whiskies. Certains whiskies d'assemblage japonais intègrent d'ailleurs une part de single malt écossais. Les whiskies japonais trustent la tête des classements des meilleurs whiskies du monde. Ces lauriers sont tout à fait mérités au vu de la qualité de ces produits. À titre personnel, je suis impressionné par les whiskies japonais, même si ma préférence va au whisky écossais. Après le Japon, c'est au tour de Taïwan, avec son célèbre Kavalan, de se lancer à la conquête du marché mondial. Ainsi s'achève cette découverte de la géographie du whisky. J'aurais pu vous parler de l'ascension récente des whiskies français qui présentent des produits tout à fait intéressants. Si vous voulez découvrir un peu plus le monde du whisky, je vous recommande la meilleure des méthodologies en géographie, le terrain. Prenez un vol jusqu'à Édimbourg, puis louez une voiture et aventurez-vous dans les Highlands ou le Speyside. Profitez-en pour visiter quelques distilleries en dégustant avec modération et profitez des paysages sauvages de l'Écosse. Si vous avez l'occasion d'assister à des Highland Games, n'hésitez pas à aller voir cet équivalent des jeux de force basque où se pratique le lancer de poutres en bois ou le tir à la corde en kilt. Si vous êtes téméraire, vous pourrez goûter le haggis, le plat national réalisé à base de panses de brebis farcies, accompagné de navets ou de pommes de terre. J'aurai l'occasion de vous parler prochainement de l'Écosse, et plus particulièrement de sa capitale, Édimbourg. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale. Cross your arid ocean with the devil at your heels. All that time has come.
come again now, I'll tell you how.